Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés, pour vous interroger, Julien Arnaud de TF1 LCI. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour.
Bonjour.
Yves. Dans la question en plus, ce sera Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, qui vous interpellera, Éric Woerth, sur le nombre de fonctionnaires. Et bien sûr, question nette en fin d'émission avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Vous pouvez toujours réagir en direct et envoyer vos questions. Elles seront bien sûr posées à Éric Woerth. Hashtag le grand jury. Alors Éric Woerth, à la fin de l'été, à votre corps défendant, vous nous avez bien fait sourire quand une photo de vous gravissant un glacier que vous aviez postée sur les réseaux sociaux a été détournée à maintes reprises. Mais fini de rire. L'alpiniste que vous êtes va s'attaquer à partir de mardi en commission à un autre Everest, le budget de la nation pour l'année prochaine que le gouvernement vient de présenter. Et vous avez déjà la dent dure, ce budget, dites-vous, c'est celui des 3D, dette, déficit, dépense. Mais ne tombez-vous pas là dans la facilité d'une opposition stérile, une opposition sans proposition, avec en prime le risque de discréditer votre camp, les Républicains, déjà en mauvaise forme, une mauvaise forme qui nourrit les appétits de Marine Le Pen. Du budget, mais aussi de la droite et d'une tentation donc grandissante de vos électeurs de se rapprocher de l'extrême droite, nous en parlerons longuement dans cette émission, dans la deuxième partie. Mais tout d'abord, l'actualité et bien sûr, le drame qui s'est produit à la préfecture de police. La première question vous est posée par Julien Arnaud.
Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Justement, après ce drame, ce tuerie à la préfecture de police de Paris, est-ce que vous réclamez des comptes au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et est-ce que vous allez jusqu'à demander sa démission ?
Non, mais d'abord j'ai une pensée évidemment pour les victimes, pour les familles des victimes, pour l'ensemble évidemment de la police et de la préfecture de police de Paris. C'est un drame qui a beaucoup touché les Français à juste titre et il faut des réponses, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc je demande des comptes au ministre de l'Intérieur puisqu'il est en charge du sujet. Je ne demande pas sa démission, on ne va pas demander systématiquement la démission d'un membre du gouvernement sur chaque crise. Je pense que
la vraie question... Il a parlé trop vite. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Christophe Castaner?
Quand on est ministre, sans doute président, et peut-être d'ailleurs au-delà, peut-être même journaliste, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il
faut réfléchir un peu. Et sans doute, le niveau d'information du ministre était celui qu'il a donné. Peut-être aussi ce qu'il souhaitait,
pour
que ce soit juste un événement individuel.
Vos amis de votre parti demandent, certains d'entre eux, la démission, M. Retailleau, M. Ciotti, M. Larrivée.
Écoutez,
vous êtes une voix singulière là-dedans.
Tout le monde est libre de demander ce qu'il souhaite. Enfin, heureusement, je n'ai jamais participé à la demande immédiate de la démission d'un tel ou d'un tel. Il y a un gouvernement, il s'organise, au président de mesurer la responsabilité des uns et des autres. Vous croyez vraiment que ça va régler les problèmes à la préfecture de police de Paris que M. Castaner démissionne? Je crois que pour l'instant, ce n'est pas le sujet que veulent comprendre les Français. Ils veulent comprendre comment quelqu'un qui est radicalisé, sur lequel il y avait des signaux visibles, semble-t-il, de radicalisation, si j'en crois la presse, comment se fait-il que cette personne puisse travailler au cœur même du dispositif de renseignement
de la
préfecture de police de Paris?
Il faut revoir toutes les procédures de contrôle, notamment ce monsieur, et comme tous ceux qui travaillent dans ce service des renseignements de la préfecture de police de Paris, avait été habilité secret défense.
Oui.
C'est une procédure qui est renouvelée tous les 5 ans. Est-ce qu'il faut revoir ça?
Semble-t-il, oui, enfin, bien sûr.
Et est-ce qu'il faut l'étendre, pas secret défense, mais est-ce qu'il faut au contact du public,
on ne peut
faut
pas
les soumettre à des contrôles.
On ne peut pas penser, accepter que quelqu'un, je veux dire, des banalités extrêmes. C'est ce que pensent exactement les Français, je le crois. Comment peut-on intégrer au sein d'un service sensible accès, d'ailleurs, il ne serait pas habilité secret défense s'il avait manié des informations banales. Donc, comment peut-on laisser perdurer la présence de quelqu'un au cœur même du service de renseignement de la préfecture de police de Paris? C'est une vraie question. Semble-t-il, il y avait des signaux. La radicalisation, la conversion J'entends parfois dire des gens, vous faites, mais jeter l'opprobre sur les musulmans. Pas du tout. Heureusement qu'un musulman français, il peut faire ce que fait tous les Français, quelle que soit la religion.
Est-ce que la
question est la radicalisation et la question est la conversion. La question est la conversion.
Il n'y a pas de risque zéro. Voilà, qu'on puisse faire tous les criblages possibles. Est-ce qu'en effet, cette question-là, il faut
entre
accepter
nous,
aussi
ouais,
que
enfin,
ce soit
possible. Quand c'est, excusez-moi, quand c'est un service de renseignement, le principe, c'est qu'il soit renseigné. Enfin, le principe général, c'est qu'un service de renseignement, il est bien renseigné. Enfin, s'il n'est pas renseigné sur lui-même, ça pose un certain nombre de questions. Dans beaucoup d'États, ça provoquerait un scandale gigantesque.
C'est un scandale d'État.
Gigantesque.
Ou pas ?
Oui, c'est un scandale d'État.
Ce qui s'est passé.
Oui, c'est un scandale
d'État.
Depuis
72 heures, c'est un scandale d'État.
Au sein d'un service de renseignement qui est censé d'ailleurs manier des informations sur le djihadiste. Sur le terrorisme, une partie c'est pas un service de renseignement sur ce qui se passe à Paris, c'est un service de renseignement qui est aussi compétent que la DGSI sur les questions de terrorisme. Donc on voit aujourd'hui le terrorisme, c'est essentiellement la radicalisation et l'islam politique, c'est comme ça que ça se passe et c'est le cas aujourd'hui. Donc qu'on laisse quelqu'un lui-même radicaliser au vu et au-dessus de tout le monde, puisqu'il se rend à la mosquée de matin, puisqu'il envoie des SMS, puisqu'il contacte des gens. Cette mosquée, elle a quand même quelques relents de salafisme. L'imam qui a été recruté est un imam qui ne se cache pas de ses préférences. Tout cela est évidemment très très sensible. On laisse les choses se faire.
Ça veut dire que
vous... Alors il peut y avoir des trous dans le dispositif, mais c'est pas un trou, c'est, c'est un cratère.
Que vous pointez des responsabilités en interne.
Ah, il y a sans doute des responsabilités ici ou là, mais ça, l'enquête le dira. Il y a des enquêtes qui ont été diligentées par le Premier ministre, des inspections des services de renseignement. On verra ce qui est dit. Enfin, en tout cas, c'est effectivement un scandale tout à fait inquiétant pour la suite des choses. Alors, je veux bien qu'on passe maintenant à la paille de fer, les services de renseignement. Enfin, honnêtement, on s'intéresse plus parfois à ce qui se passe chez parlementaires ou je ne sais où que ce qui se passe
ça
dans des services aussi sensibles.
Ça sert à rien, les démissions du Premier ministre, ce qu'a mis en, ce que
veut mettre en place le Premier ministre. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Il faut bien qu'il dise quelque chose. Donc, en général, on diligente une mission d'inspection. Et puis, on réforme après. La question, c'est au fond, est-ce qu'on est capable, encore aujourd'hui, dans ce monde aussi compliqué, d'avoir des services suffisamment à même sur le plan technologique, mais aussi sur le plan humain et sur le plan des compétences. Peut-être que notre organisation n'est pas la bonne, d'ailleurs, aussi. Hein.
Alors
peut-être qu'il y a un problème d'organisation
sur,
avec deux services.
Sur Christophe Castaner et Éric Woerth, quand même, vous nous dites, vous ne demandez pas la démission. Est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité du préfet de police de Paris, en l'occurrence, ou pas ?
Mais les chefs sont toujours responsables de quelque chose. Si le chef n'est pas responsable de quelque chose, alors il n'est pas chef.
Est-ce qu'il doit être changé,
du coup ? Moi, je ne raisonne pas en changement de gens. C'est trop facile. On change les gens, puis on part comme... il vient d'arriver, ce préfet de police, il ne peut pas être responsable de tout. Donc la question, je pense, n'est pas du tout... Je pense qu'on la prend très très mal quand on la prend comme ça. Vraiment, quand Christian Jacob demande une commission d'enquête du Parlement, je pense qu'il faut que le Parlement mène cette commission d'enquête. On est à ce moment-là complètement dans notre rôle. L'État, il doit se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres éléments de cette nature. Si le trou dans la raquette, il n'y a pas plusieurs raquettes un peu partout, et s'il n'y a pas plusieurs trous, donc il doit parer au plus pressé, et après il doit penser à sa réorganisation. Il doit savoir si en France, on doit avoir les services de renseignement les mieux renseignés du monde. Et si on a les services de renseignement les mieux renseignés du monde, alors ils sont renseignés sur eux-mêmes.
Là, c'est les services de renseignement, Monsieur Woerth, mais les Français se posent une question. Savoir si tous les agents publics ou les fonctionnaires qui sont en contact du public, c'est-à-dire les chauffeurs de bus, les conducteurs de train, les enseignants, est-ce que des enquêtes de personnalité doivent être conduites sur ces gens-là ?
Toute personne qui, à un moment donné, est amenée à manier des sujets sensibles doit faire l'objet au moins d'une information. Quand vous êtes recruté quelque part, il y a dans le privé, il n'y a pas d'enquête sur vous, mais enfin, on regarde beaucoup qui vous êtes. Quand on est recruté dans le public, il y a un concours. Donc le concours, ce n'est pas votre personnalité, c'est votre capacité à passer un concours. Donc il faut, bien sûr, sur des postes à responsabilité sensible, il faut le faire. Mais je pense à d'autres types de postes. Des éducateurs qui travaillent avec des jeunes enfants doivent faire l'objet aujourd'hui au moins d'une enquête, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça perdurer ce genre de choses et aller parfois au-devant de
problèmes. Mais ça peut arriver à une société.
Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de... Oui, mais enfin... On ne peut pas dire qu'on accepte d'être googlisé sans arrêt, d'avoir, de donner ses données partout dans le monde, qui remontent dans un cloud, qui redescendent, je ne sais pas où, auquel personne ne comprend rien. Enfin bref, de perdre la liberté juste pour notre confort quotidien, et puis se poser la, de ne pas se poser la question pour celles et ceux qui tous les jours nous servent. Ce qu'il ne faut pas...
Il faut concéder une part de cette liberté pour la sécurité publique, c'est ça que vous...
Oui, ce qu'il ne faut pas, bien sûr, c'est pour protéger les libertés des autres. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est jeter l'opprobre sur des professions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça rejaillisse sur des professions. Ce qui s'est passé là, c'est infiltration au fond d'un service de renseignement. Ne peut pas jeter l'opprobre sur tous les services de renseignement et sur tous les gens qui font bien leur boulot. C'est vrai pour les députés, c'est vrai pour l'ensemble des parlementaires, c'est vrai pour toutes les catégories de population qui sont aujourd'hui exposées. Mais on voit quand même que le gouvernement, dans le domaine des communications de crise, il a un peu à apprendre. Quand on met en parallèle ce qui s'est passé sur Rouen, qui est une autre tragédie, également, il n'y a pas, évidemment de mort, donc c'est peut-être pas à mettre au même niveau, mais en fait, c'est une stratégie écologique et plus large d'ailleurs, et sociale, de vie dans cette belle région du Rouennais. On voit quand même qu'il y a d'énormes failles dans les dispositifs de communication.
Cette question est importante. Est-ce que le président de la République aurait dû, à votre avis, s'y rendre, lui, pour témoigner justement de sa solidarité et de l'intérêt du sommet de l'État à cette explosion?
Vous savez, le symbole des présidents se promenant un peu partout pour... le président, il débat déjà partout. Donc, il viendra un jour à Rouen et il ira à la préfecture de police si ce n'est pas le cas. Bien sûr, je n'ai pas de doute qu'il soit... un président, par principe, il est sensible aux choses. Je ne mets pas du tout en cause. Je pense qu'Emmanuel Macron est sensible à ça. Qu'il est,
ou est-ce que les services de l'État auraient dû s'installer là-bas? Est-ce que Agnès Buzyn aurait dû se délocaliser son ministère aussi pour montrer qu'il y avait une prise en considération des inquiétudes
locales? En tout cas, je vois bien que d'un côté, des gouvernants ont dit des choses, puis ont commencé à dire des choses un peu différentes. On est dans une société de plus en plus informée ou mal informée, mais enfin, en tout cas, elle est informée, parfois ce sont des informations fausses qu'elle va dire, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de questions, tout ça va très vite avec les réseaux, et on voit bien qu'un ministre qui dit quelque chose de pas clair, ça évidemment accélère le phénomène. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans l'idée que nous sommes en train de construire un État naïf. Nous avons, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la sécurité, on le voit, dans le domaine de l'écologie, beaucoup de défis qui nous attendent. Et il ne faut pas que l'État soit naïf. Il ne faut pas qu'il soit naïf vis-à-vis de grandes sociétés qui commencent probablement à concentrer beaucoup de pouvoir, et sans doute trop de pouvoir sur nous-mêmes. Et puis de l'autre, un État qui laisse aller. Regardez dans le domaine commercial. Des structures d'État. L'État, il est représenté à un moment donné par un gouvernement. Ça va de soi. Et je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment d'écouter, de débattre et en même temps d'engranger tous les jours une dose supplémentaire de naïveté. Regardez ce qui se passe dans les grands accords internationaux. Depuis que Trump est arrivé, il a quand même bouleversé. C'est un grand chamboule-tout de l'ensemble de l'économie internationale. Bon, il ne faut pas que l'Europe là-dedans soit naïve et il ne faut pas que la France...
On reviendra à ces questions-là, mais sur Lubrizol...
Je donnais des exemples de naïveté.
Mais tout à fait. Mais vous dites que sur Lubrizol, il y a une forme de naïveté quelque part de l'État par rapport à toutes ces entreprises.
Il se précipite. Le Premier ministre envoie des ministres précipités sur le terrain. C'est bien, ça montre qu'on n'a pas sous-évalué le sujet. Ces ministres n'y sont pas préparés. Ces ministres sont assez peu politiques, donc au fond, ils dominent leur sujet techniquement, mais ils ne sont pas capables de l'expliquer à une population complète. Et on en arrive à une forme de cacophonie.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne croit pas le gouvernement. N'importe quelle autorité est défiée parce qu'il y a des infox partout aussi sur les réseaux sociaux. Comment faire pour lutter contre ça? Pourquoi? Est-ce que vous auriez fait mieux, vous, Éric Woerth, au pouvoir, sur cette question-là?
Vous dire qu'on aurait fait moins bien. Évidemment, j'espère qu'on aurait fait mieux. Je ne sais pas.
Est-ce que vous êtes concurrencé par des vérités alternatives qui polluent les réseaux sociaux?
Oui, il faut opposer à ces vérités alternatives la force de vos propres vérités. Et le gouvernement, il a tous les moyens à un moment donné, d'abord peut-être parfois de dire je ne sais pas, il n'est pas obligé de toujours tout savoir dans la minute, il peut donner un rendez-vous un peu plus tard pour dire quelque chose d'un peu plus solide. C'est très compliqué d'avoir à se contredire. D'abord on dit il n'y a pas de problème, vous pouvez respirer ce que vous voulez, il n'y avait pas de... Bon, et puis de l'autre côté, un ministre comme Mme Buzyn qui vient expliquer qu'il n'y a évidemment pas de problème, il vaut mieux pas toucher à ça, vaut mieux pas respirer telle et telle chose, qu'en plus on apprend au fur et à mesure du temps que c'est plutôt deux fois plus de fûts qui ont brûlé que les premiers. Enfin, bon, tout ça crée... Le gouvernement, il n'a pas voulu mentir. Il n'a jamais voulu mentir. Et je pense qu'il veut être transparent. Réellement, je pense qu'il est tout à fait... Il espère être le plus transparent possible. Le seul problème, c'est que cette transparence, elle crée une couche d'opacité supplémentaire. Et ça, ça s'appelle la gestion de crise.
Dans tout ce que vous dites, Éric Woerth, ce qui ressort, c'est que finalement, cette parole officielle, cette parole politique, elle est de moins en moins crédible. Est-ce que ça vous inquiète, ça ?
Oui, parce que la démocratie, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que la démocratie vaut bien, qu'il y a bien d'autres modes d'organisation des pouvoirs publics que la démocratie. Oui, bien sûr, c'est très très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'il y a une foule d'informations qui arrivent dans tous les sens, et dans toutes les oreilles, et sur toutes les langues, et donc tout ça donne une tour de Babel incessante. Le gouvernement, il doit montrer sa force, et l'État républicain, il doit montrer sa force, sa constance, sa capacité à dire des vérités, sa capacité éventuellement à attendre avant de les dire. On n'est pas obligé de se précipiter devant le premier micro. On peut un peu réfléchir, un tout petit peu. On sait bien que quand de telles fumées se dégagent, on sait bien qu'il y a quelqu'un a dit, d'ailleurs de façon assez rigolote, il a dit, il n'y a pas de fumée bio, quoi. Il y a un moment donné, évidemment, ça va être attentatoire, durablement ou pas, j'espère pas, à la sécurité et à la santé publique.
Mais cette crédibilité qui est remise en question vis-à-vis de nos dirigeants, est-ce qu'elle n'est pas encore plus, eh bien, elle ne vous impacte pas encore davantage, vous, quand vous êtes dans l'opposition ? Est-ce qu'une opposition peut être crédible aujourd'hui ?
Oui, heureusement, sinon il n'y a pas de démocratie possible, plus rien n'est crédible. Si l'État ne l'est plus, si le gouvernement ne l'est plus, si l'opposition ne l'est plus, on fait quoi ? On fait venir des ONG, on demande à des algorithmes de gérer les choses, on remplace les journalistes par des questions toutes faites, avec des réponses toutes faites de l'autre côté. Non, je crois profondément à la démocratie. Elle doit juste être plus forte. Elle doit être plus forte. Et je crois à la force des idées, je crois aussi à la force des arguments employés à un moment donné.
Il y a la force des idées, il y a une force des idées. Aujourd'hui, on va avoir une manifestation cet après-midi sur la procréation médicalement assistée, contre la procréation médicalement assistée, Yves Tréhard.
Alors, il y a une manifestation cet après-midi, effectivement. Alors, vous dites on peut être crédible. Simplement, quand on regarde l'opposition qui, la droite notamment, le Parti des Républicains, vous êtes divisé sur cette question. Vous n'allez pas aller manifester alors que d'autres vont y aller.
Ouais, enfin, la crédibilité, c'est pas nécessairement l'unité. C'est pas tout à fait pareil. Ah. Il peut y avoir des opinions différentes. Et il faut les assumer, si on sait pas les assumer. D'ailleurs, vous pouvez pas créer un grand parti politique large sans qu'il y ait des opinions différentes. Et sinon, c'est une seule opinion. En général, ça se compte.
Pourquoi vous n'allez pas manifester personne. Vous-même?
Je crois plus au gourou, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il donne l'opinion de tout le monde et puis ça se termine par le suicide collectif.
Vous y aviez cru en 2013. Vous aviez défilé en 2013 aux côtés de la manif pour tous. Vous appeliez un référendum aussi à l'époque.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? J'ai défilé une fois parce que je pensais et je pense toujours. Je pense que j'étais pas. Je l'avais expliqué d'ailleurs. Je n'étais pas défavorable en soi au mariage. J'étais défavorable au mariage parce qu'il entraînait des principes sur la filiation. Et on y est aujourd'hui. On y est avec la PMA. On y est. Alors, je sais bien que c'est pas très populaire de le dire, mais moi, je suis opposé à la PMA. Et je pense que sur ce sujet, on confond tout. Et on y met beaucoup de sentiments. Et donc, à partir de là, on est vite perdu et vite perdant quand on défend l'idée qu'il y a une vision anthropologique de l'homme. Qu'il faut un père, qu'il faut une mère, qu'à un moment donné, il y a la nature qui fait les choses et qu'on a besoin d'avoir deux sexes. D'ailleurs, sinon, il y en aurait trois, il y en aurait quatre. Non, on a besoin de deux sexes pour faire. Et la nature l'a prévu comme ça. C'est pas un hasard. Et je pense qu'on doit être très, très, très attentif à ce que la nature aujourd'hui prévoit.
Est-ce que vous n'êtes pas à rebours, Éric Woerth, de la société, puisqu'on le voit dans les sondages, les Français y sont favorables. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir un temps de retard, comme vous l'avez eu, sur le mariage pour tous, qui est largement accepté, y compris dans vos rangs dorénavant?
Mais c'est vous qui appelez ça un temps de retard. En quoi c'est un retard? En quoi c'est un progrès? En quoi c'est un progrès d'aller nécessairement dans le sens de l'opinion publique? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut préserver la nature intime de l'homme, et de l'homme ou du genre humain. Le genre humain, ce sont des hommes et des femmes. Et à un moment donné, a priori, il faut être un homme et une femme pour faire un enfant. L'enfant, il n'est pas créé. Il n'est pas créé dans un laboratoire. Il est engendré. C'est assez différent. La filiation, ça veut dire quelque chose. Si vous confondez les choses, si vous dites qu'un enfant peut être heureux dans un couple de femmes ou dans un couple d'hommes, je suis d'accord avec ça. J'ai aucun problème. Il sera bien plus heureux dans un couple de femmes harmonieux et qui s'aiment que dans un couple hétérosexuel qui passe son temps à chamailler, voire pire. Donc je n'ai pas de problème là-dessus. Mais la question, ce n'est pas le bonheur de l'enfant dans une famille. Il faut, tout le monde doit tendre vers cela. C'est comment aujourd'hui,
il y a un droit à la vie. Vous défendez le droit à la vie. Pourquoi ne pas le défendre dans ce cas-là? Voilà ce qui vous répond.
Mais je défends le droit à la vie. Est-ce qu'il a juste remarqué que le droit à la vie, c'était un homme et une femme? Est-ce qu'on vous rendez compte qu'on est en train de se poser la question de savoir s'il faut un homme et une femme pour faire un enfant? Parce qu'on parle de filiation, on ne parle pas de mère isolée, on ne parle pas d'adoption, ça c'est d'autres sujets. Mais là, on est en train de se dire, pour faire un enfant, pour engendrer un enfant, pour créer cet enfant, on peut s'abstraire des lois naturelles.
Est-ce que vous diriez...
Je trouve que c'est une erreur.
Est-ce et
je pense
que la figure du père... Ça bouleverse l'équilibre social.
Oui, ça le bouleversera. Ça le bouleversera à terme parce que ça touche au genre humain, ça touche à la nature humaine.
D'accord.
Parce que après, vous allez évidemment, c'est un engrenage qu'on avait dénoncé
GPA,
à un moment
c'est
donné.
Sûr pour vous,
mais c'est, enfin, c'est sûr.
Vous ne vous croyez pas les engagements du gouvernement.
Mais la personne qui a pris ses engagements, elle fera autre chose dans 10 ans. Non, je crois en aucun cas aux engagements du gouvernement. Et il y aura évidemment des couples d'hommes et donc des ventres, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, aujourd'hui, qui seront à un moment donné commercialisés, parce que ça se passe comme ça ailleurs dans le monde, et qui permettront à des hommes d'élever un enfant. Moi, j'ai rien contre l'idée que deux hommes élèvent un enfant. Je suis persuadé qu'ils lui donneront tout l'amour du ciel. Mais à ce moment-là qu'ils adoptent. Je crois que c'est pas du tout qu'on vit, enfin qu'on est en train de dénaturer ce que la nature a créé. C'est jamais très bon. Je sais bien que c'est pas bien de faire le parallèle, mais
vous
quand on voit qu'on, qu'on prend au moins autant, qu'on prend une telle précaution aujourd'hui sur la nature, sur l'écologie, sur l'avenir de la planète, et quand même l'avenir de la planète, c'est quand même une planète
alors,
composée d'hommes et de femmes.
Question que
parce que demain, vous aurez des usines. Demain, vous aurez des usines.
Un référendum sur la PMA.
Demain, vous aurez des usines pour créer des enfants.
Alors,
des bébés éprouvettes, ce sera un autre moment. On verra au fond, hors sol.
Est-ce qu'il faut un référendum
hein, et puis, on ira choisir, parce que c'est quand même mieux. C'est un engrenage et c'est une société, je pense, dans laquelle personne n'a envie de vivre.
Est-ce que vous voulez que cette question soit tranchée par référendum?
Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien parce que je pense que comme il y a tant de confusion et qu'on confond le sentiment, le bonheur familial qui n'a rien à voir, le bonheur de l'enfant au fond, et puis de l'autre, la question que pose cette idée qu'on est en train de rompre avec la filiation qui est en réalité quelque chose d'humain. Quand un ministre dit qu'il n'est pas nécessairement que quand on accouche, on n'est pas nécessairement la mère. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'a dit Madame Buzyn. Alors là, c'est des principes quasiment de droit romain, mais c'est tout simplement des principes de bon sens qui sont mis en cause.
Alors, on va vers un autre sujet. Hein, à partir de demain, autre actualité, l'immigration, puisqu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale voulu par Emmanuel Macron. Yves Tréard.
Est-ce que vous pensez que ce débat sera suivi d'effets concrets de la part du gouvernement et du président de la République, ou est-ce qu'à votre avis, c'est simplement de l'opportunisme électoral?
Bon, les débats à l'Assemblée, ce n'est pas des débats. Hein. C'est des discours les uns à côté des autres. Il y a des Olivier Marleix, Valérie Bazin, Malgras et Constance Le Grip sont tous les trois députés. Je pense que, regarde, ils me diront la même chose. Il n'y a pas, c'est pas un débat, c'est des opinions les unes après les autres. Je pense que le gouvernement, il a évidemment son idée derrière la tête. D'ailleurs, le président l'a indiqué, c'est de réinvestir ce champ de préoccupation fondamentale pour les Français qui est comment on accueille des immigrés, quel type d'immigrés, comment on intègre, c'est très très important, comment on intègre à notre nation.
Vous êtes favorable à des quotas?
La culture de notre nation.
Vous êtes favorable pour des quotas?
Oui, moi je suis favorable à des plafonds. Plutôt que des quotas, mais enfin en tout cas des plafonds d'immigration, notamment et surtout pour l'immigration économique.
Ça changerait quoi,
en vérité,
pour qu'on comprenne quotas, plafonds?
On a besoin, enfin d'abord je voudrais dire qu'on a besoin d'immigrer. On a besoin d'immigrer. Ah. La France, elle a besoin d'immigrer.
C'est une chance pour la France.
Oui, c'est une chance pour la France, mais ça l'a toujours
l'immigration
été.
L'immigration est une chance pour la France, comme le disait Alain Juppé.
Oui. Oui, bah, de temps en temps.
Et Emmanuel Macron.
Peut revenir.
Et Emmanuel Macron. Pendant la campagne.
Comme je dis, moi.
Non, mais vous êtes libre de dire comme d'autres.
Vous êtes
comme le dire. On est surpris de vous entendre, parce que c'est vrai que dans vos rangs, on l'entend peu.
Oui,
voilà, on s'en étonne.
Je dis des choses parfois qui ne sont pas du tout dites dans mes propres rangs, mais ça reste mes propres rangs. Je pense qu'on a besoin d'une immigration, mais qu'on a besoin d'une immigration qu'on contrôle.
Et pour autant.
Qu'on contrôle. Mais alors derrière ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de changements. Parce qu'en réalité, la France aujourd'hui est un pays de lourde ou de large immigration. Alors que le mouvement a plutôt tendance à se restreindre en Europe, l'immigration, les demandes d'asile, le nombre de titres de séjour délivrés, tout ça est en augmentation extrêmement forte en France. Donc il y a un tout petit problème. On ne peut pas dire qu'on veut contrôler et en même temps devenir un pays qui de plus en plus laisse installer
très concret,
des immigrés
Eric
dont parfois nous ne voulons pas pour
plusieurs
raisons.
Pour être très concret, est-ce que vous voulez remettre en cause le droit du sol? Vous disiez en 2015 que l'islam, c'est une immigration qui vient d'autres pays, donc qui pose des problèmes d'intégration, pas d'automaticité dans l'acquisition de la nationalité française. Voilà ce que vous disiez en 2015. Et Guillaume Larrivé, qui est candidat à la présidence des LR aujourd'hui, souhaite qu'on revienne sur le droit du sol historique en France. Est-ce que vous le souhaitez vous aussi?
Non, mais moi, je vous donnais mon opinion à moi.
Oui.
Mon opinion à moi, c'est que je pense, et beaucoup l'ont dit aussi, c'est que un enfant né de parents irrégulièrement sur le territoire français, enfin de parents irréguliers sur le territoire français, il ne faut pas appliquer le droit du sol. Mais d'ailleurs, c'est déjà le cas, par exemple, à Mayotte ou dans d'autres régions français. Vous ne pouvez pas faire des appels d'air de cette nature. Et il est dans la nature des choses que deux parents qui sont là de façon irrégulière, donc qui n'ont pas, que la France ne souhaite pas accueillir sur son territoire, que l'enfant né puisse être français.
Donc on uniquement pour les parents en situation irrégulière.
Pour les parents en situation irrégulière. Et puis je pense aussi qu'il y a des...
Mais s'il est là
pas
depuis,
d'automaticité
même
totale.
Même s'il est né sur le territoire, cet enfant est né sur le territoire, il faudra donc qu'il demande sa nationalité et on évaluera si on lui donne ou pas. C'est
oui,
ça
mais il faudrait, entre nous, si les parents sont en situation irrégulière, il faut surtout que les parents soient reconduits dans leur pays d'origine avec leur propre enfant.
Alors ça,
et puis,
s'ils sont régularisés entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous partez de quelle situation? Est-ce que c'est leur régularisation ou le fait qu'ils soient arrivés de manière régulière?
Il est né de parents en situation irrégulière, donc il doit y avoir un processus de naturalisation de l'enfant. Il ne peut pas y avoir d'automaticité. L'automaticité, c'est terrible. C'est comme d'ailleurs entre nous pour la GPA, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu un amendement voté à la demande du rapporteur, quand même, du texte sur l'automaticité de l'inscription dans notre droit civil de la filiation par GPA lorsqu'elle s'est déroulée ailleurs.
Très
on voit bien que on voit bien que toutes les failles sont en train aujourd'hui de s'ouvrir.
Alors il y a un autre sujet, c'est l'AME, l'aide médicale d'État, qui est accordée aux immigrés en situation irrégulière. C'est à peu près 1 milliard par an. Vous souhaitez transformer cette AME en aide médicale d'urgence. Alors, quelle est la différence? C'est quoi l'urgence pour vous?
En tout cas, il ne peut pas y avoir de détournement du droit, notamment du droit d'asile. Quand vous voyez quand même que ce sont... J'étais récemment parlé avec tout un certain nombre de membres du Conseil d'État, donc, dont le vice-président et les patrons du Conseil d'État. Une grande partie de nos juridictions administratives, elles traitent du problème des droits des étrangers. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40%, hein, c'est pas 40%, des cas, c'est des cas de droit des étrangers. Et quand vous voyez que l'origine, qu'une grande partie, pas tout, mais qu'une grande partie d'origine, c'est des Albanais, des Géorgiens ou des Serbes, ça pose plein de problèmes. Il y a une liste de pays sûrs. Il y a des listes de pays sûrs. Il faut que ces listes, d'ailleurs, elles soient européennes et qu'elles ne soient plus nationales. Et quand il y a une liste de pays sûrs, les personnes qui demandent un droit d'asile quand ils sont originaires d'un pays sûr, il faut leur refuser.
Et sur l'aide médicale d'État,
vous refusez le droit d'asile.
Et l'AME.
Et donc, il y a évidemment un contournement des processus de droit d'asile pour avoir accès, me semble-t-il, notamment aux prestations sociales françaises, dont l'AME. Donc il faut durcir les conditions d'accès aux prestations sociales de tous ordres. Il faut qu'il y ait un temps il faut que les gens aient passé un certain temps, 3 ans, 4 ans, sur le territoire français.
Ah oui,
pour avoir accès,
un délai d'accès.
Pour avoir accès aux prestations
Combien
sociales. C'est le cas pour un certain nombre, c'est le cas pour quelques prestations et ce n'est pas le cas pour d'autres. Bon. Donc il faut harmoniser cela. Et en ce qui concerne l'aide médicale d'État, il faut évidemment soigner les personnes qui sont malades et qui sont sur notre territoire. Quand c'est des opérations qui peuvent être remises à 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, ce qui est le cas, c'est-à-dire sans urgence particulière et sans urgence évidemment vitale, sans risque épidémiologique évidemment, eh bien, le principe de cela, c'est que le temps de traitement administratif doit correspondre à cela et les personnes doivent être reconduites chez elles. Évidemment, on soignera toujours en France, et c'est notre dignité, on soignera toujours en France les personnes qui ont besoin de soins. Ça va de soi. Comme on doit accueillir dignement aussi ces personnes, et je pense qu'il faut réinvestir dans nos centres d'accueil. Je suis allé voir le centre d'accueil de Senlis, pas loin de chez moi. J'ai vu dans des conditions à peu près acceptables. Mais quand vous n'avez que des personnes qui sont issues de pays africains, mais considérées comme sûres, elles n'ont aucune chance d'avoir
le droit d'asile. On se retrouve pour la suite de cette émission dans quelques instants pour le grand jury.
Suite du grand grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Woerth, ancien ministre, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Julien Arnaud de TF1 LCI, Yves Tréhard du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
On a appris qu'une information judiciaire avait été ouverte dans l'affaire Tapie par la Cour de justice de la République parce que, après l'arbitrage que Bernard Tapie a gagné, une faveur fiscale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, lui aurait été accordée. C'est vous qui lui avez accordé cette faveur fiscale ?
Tout, moi, je ne suis pas informé de l'ouverture de quoi que ce soit devant la Cour de justice de la République, donc peut-être un jour le...
Parce que vous étiez ministre à l'époque.
Oui, j'étais ministre. On a évidemment traité ce dossier comme on devait le faire, et je pense qu'on l'a bien traité, donc on s'en expliquera. Aucune faveur, d'aucune sorte.
D'accord. Alors, on passe au budget, hein, puisque c'est la grosse actualité aussi de la semaine. Vous êtes président de la commission des finances, vous serez en première ligne, et vous avez expliqué que ce budget était un mauvais budget. J'ai dit 3D, déficit, dette, dépense. Mais alors, on se pose des questions sur ce que vous proposez de manière alternative. Et vous dites dans les propositions que vous allez défendre cette semaine en commission, hein, sur ce budget, que vous voulez réaliser 20 milliards d'économies par an. Éric Woerth, voilà votre objectif. Ça veut dire que vous n'auriez pas diminué les impôts des Français, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, à hauteur de 9 milliards ?
Je pense que le gouvernement, il se trompe de budget. D'ailleurs, à mon avis, c'est quand même le budget qu'il n'aurait pas aimé faire, qu'il n'aurait pas voulu faire.
Il s'est fait imposer par les Gilets jaunes.
Je pense qu'il s'est fait imposer par le climat social qui aujourd'hui règne sur la France. On est dans une France terriblement stressée. Stressée par plein de sujets et stressée aussi par une sorte de sensibilité sociale très très élevée. Elle n'est jamais très très loin de l'épiderme.
Mais il ne fallait pas baisser la charge fiscale ?
Bah oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Baisser les impôts, tout le monde souhaite qu'on baisse les impôts. Fondamentalement, évidemment qu'il faut payer moins d'impôts, mais baisser les impôts, ça veut dire aussi dire comment on les baisse. Comment on fait ? Ouais. Et comment vous baissez les impôts si vous ne réduisez pas un peu la dépense ? Vous augmentez le déficit. C'est assez classique, hein, c'est que des plus et des moins. Augmenter le déficit, c'est réduire la souveraineté du pays. Augmenter le déficit, c'est réduire la croissance potentielle de notre pays. C'est donc de réduire le potentiel de revenus et le potentiel de salaire de chaque Français.
Donc
le potentiel d'investissement de chaque entreprise. Je pense que le gouvernement s'est trompé, ou alors il a cédé à la pression. On passe d'une politique de l'offre, comme on dit, c'est-à-dire plutôt pro-entreprise, en disant il vaut mieux privilégier ceux qui créent de la richesse, et après, quand ils créent de la richesse, c'est les entreprises. Et d'ailleurs, les entreprises, entre nous, elles sont composées de ménages, hein, donc on ne peut pas faire nécessairement beaucoup de différence entre ça. Que les entreprises, une fois qu'elles vont mieux, elles créent, elles ont les conditions de créer et de distribuer plus de salaires. Mais aujourd'hui, cette politique était plutôt une bonne politique du président de la République dans un premier temps, est devenue une politique de la demande classique, où on baisse les impôts, c'est-à-dire c'est de la dépense fiscale, et où on compte sur la croissance.
Et donc vous n'auriez pas baissé les impôts de 9 milliards, c'est ça que vous nous dites ?
En tout cas, nous n'aurions pas, et je n'aurais pas, et je l'assume totalement, je n'aurais pas supprimé la taxe d'habitation. Je pense que c'est une erreur d'avoir fait 20 milliards de réduction de taxe d'habitation, parce que ça a totalement... tuer toutes les marges de manœuvre possibles pour le pays. Et je n'aurais pas supprimé la taxe d'habitation, mais nous aurions au contraire été plus loin sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est mal faite en France, mal faite par rapport à plein d'autres pays, qui continue à être mal faite. Et deuxième point, je pense qu'il faut réduire les impôts de production qui pèsent sur la productivité de nos entreprises.
Plutôt pour
c'est
les
pas
entreprises
pour faire plaisir
que pour les ménages.
Aux entrepreneurs.
C'est ça votre credo ?
Mais les entreprises, ce sont des ménages. Qu'est-ce qui travaille dans des entreprises ? Des algorithmes, des robots. Ce sont des ménages. C'est des gens qui tirent un salaire. Et vous croyez que leur salaire il va être augmenté l'entreprise n'est pas aidée, si elle a des boulets au pied par rapport aux entreprises européennes, aux entreprises mondiales ?
Vous parlez de la réduction, si vous l'avez beaucoup à la bouche, la réduction de la dépense publique, justement, pour baisser les impôts. Sur quoi faites-vous des réductions de dépenses publiques alors que vous dites souvent il faut pour la police, pour la justice, pour l'enseignement, pour des moyens ?
Ah mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je pense qu'il faut se réorganiser différemment. Qu'il faut avoir un service public de bonne qualité, un service public de santé, un service public de sécurité de bonne qualité. Ça ne passe pas nécessairement par 5,5 millions de fonctionnaires. Je pense qu'il faut réduire, à un moment donné, le nombre de fonctionnaires.
Alors justement, sur ce sujet des fonctionnaires, on va écouter Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière, qui vous interpelle. C'est la question en plus.
Le Grand Jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, monsieur le député, bonjour, Yves Verrier, secrétaire général de FO. La plupart des communes, monsieur le député, notamment des départements ruraux, s'inquiètent aujourd'hui des fermetures de services publics. Dans le même temps, nos gouvernements, vous-même, ne parlez plus de la fonction publique qu'en termes de dépenses, de coûts pour la société. Mesurez-vous à quel point ce discours est décalé par rapport aux besoins, éducation, santé, fiscalité, sécurité des citoyens, et alimente dans le même temps une forme de déconsidération dont souffrent trop souvent des fonctionnaires pourtant engagés. Merci, monsieur le député.
Voilà, enfin, vous n'entendez pas aussi les gilets jaunes.
Dit, qui parle de déconsidération des fonctionnaires? J'ai la plus grande considération pour les fonctionnaires et le travail qu'ils font. Simplement, on peut dire à un moment donné que la France vit au-dessus de ses moyens. On a le droit de le dire. Ce que dit notre interlocuteur, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on entend ça. Comment ils font dans d'autres pays? Comment ils font? Ils ont des services publics à la ramasse? Mais vous plaisantez. Vous êtes allé voir en Allemagne ou dans d'autres pays comme de cette nature. Je parle de pays comparables. Je ne parle pas de pays qui ne sont
alors
pas
combien de fonctionnaires
comparables.
Vous les supprimez?
Nous ne sommes pas sensibilisés.
Toujours 500 000. C'est toujours ça.
Non, c'était au moment de la primaire. Je pense qu'il faut revoir, évidemment, de façon.
C'est ce que François Fillon avait défendu, enfin, lui-même à l'époque.
Vous savez ce que je pense? Ben, appliquons le programme du président de la République. Appliquons le programme du président
donc
de la République.
50 000.
Le président
000.
De la République, il a prévu 120 000 sur l'ensemble de la sphère publique.
Dont 50 000 dans la fonction publique d'État.
Puis il a révisé à 15 000, puis il a révisé à 10 500. Et cette année, 47.
Éric Verdt, vous êtes...
Réduction de 47. On aura bientôt les noms des fonctionnaires qu'on ne remplace pas.
Vous êtes parfois contradictoire parce que vous dites appliquons son programme. Et puis vous dites dans une interview chez des confrères, mais Macron, il a provoqué la crise des gilets jaunes.
Oui.
Alors,
je pense, oui.
Et il a provoqué à cause de sa politique.
Je réponds ponctuellement au nombre de fonctionnaires. Prenons simplement ce qui a été dit. Les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Alors, faisons au moins 120 000 réductions. C'est pas pour le plaisir de faire 120 000 réductions. Ça n'a rien de comptable, tout ça. Dire qu'il faut s'attaquer à un moment donné à la réduction de la dépense publique, c'est en réalité créer les conditions d'un pouvoir d'achat durable des Français. Vous croyez que le pouvoir d'achat, ça se fait à partir de baisses d'impôts non financées, payées par de la dette et puis par des transferts sociaux? La France est le pays où les transferts sociaux sont les plus importants. Et c'est le pays où probablement le mécontentement social est le plus important. On pourrait avoir l'un ou l'autre. On a les deux. Il y a un moment donné, il faut répondre à ce type de paradoxe. Il nous faut une Greta Thunberg des finances publiques. Il nous faut quelqu'un qui, à un moment donné, ait le charisme nécessaire.
C'est vous, la Greta Thunberg?
Est-ce que c'est vous? Visiblement, je n'ai pas le profil de ça. Je le regrette. Il faut quelqu'un qui, à un moment donné, puisse incarner l'idée qu'on ne peut pas vivre au crédit des générations futures.
Mais c'est le président
comment
de la Cour
voulez-vous
des comptes
sauver la planète?
Le président de la Cour des comptes est censé dire ça. Le
président
de la Cour des comptes le dit chaque année.
Oui.
Alors, est-ce que c'est pas lui, Greta Thunberg,
visiblement. Didier Migaud aimerait ça sans doute, mais parce que les gens raisonnables sont aussi des gens responsables. Et notre responsabilité, c'est de dire que peut-être qu'il faut léguer aux générations futures une planète plus propre, et on est tous d'accord. Il faut aussi léguer à nos générations
mais
futures.
Mais vous avez fait exploser la dette quand vous étiez au pouvoir, Éric Verhaert. Comment vous êtes crédible quand vous pouvez dire ça, c'est ça?
Parce que je suis crédible. C'est pas une autoproclamation parce que vous avez oublié, vous avez tort, parce que vous avez la mémoire courte, c'est que à cette époque-là, le monde était en récession. Et quand on est en récession, il y a plus de recettes. Et quand il y a plus de recettes, ça crée d'énormes déficits qu'il faut bien financer. Et que quand l'impôt sur les sociétés se casse la figure, quand le monde au fond financier économique et donc in fine le monde tout court se pose des questions sur sa propre survie, c'est un autre. Aujourd'hui, il y a pas de crise. Monsieur Sportouche, il y a pas de crise. Aujourd'hui, on est donc dans une situation idéale. Il
n'y
a pas de crise. Il y a des risques de crise. Il y a des risques de crise.
Julien Arnaud, sur le temps de travail.
Sur vos propositions, le temps de travail, effectivement, aligner le temps de travail dans la fonction publique d'État sur la moyenne du privé, c'est 37h30 environ. Pour vous, aujourd'hui, ils travaillent combien d'heures?
Les fonctionnaires.
En moyenne?
Ouais.
À peu près 35 heures, 36 heures. Il faut évidemment aller plus loin. Mais ça dépend des ministères. D'abord, il faut que tous ceux qui travaillent moins de 35 heures remontent à 35 heures. Puis après, il faut augmenter le temps de travail et payer, évidemment, les fonctionnaires en fonction de ce temps de travail. Mais plus globalement, entre nous, plus globalement, prendre un peu de hauteur dans cette affaire-là. Il faut qu'on travaille plus en France. Il faut que le volume d'heures travaillées en France soit plus important. Que le taux d'emploi, le taux d'activité français soit plus important. On a au moins un écart de 10 points de PIB, de taux d'activité avec des pays comme l'Allemagne et plus généralement avec les grands pays. Ça veut dire que le volume le volume d'heures travaillées, c'est la richesse du pays. Par rapport au nombre de citoyens, il est plus faible en France qu'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il faut ?
Ça veut dire que comment voulez-vous financer de façon pérenne, durable, pour employer un terme qui est plus politiquement correct, durable, un modèle social qui fait notre richesse ? Solidarité médicale, solidarité, accès à l'école, tout ça, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ce soit payé par des générations futures. Donc, il faut augmenter le volume horaire.
Il faut travailler plus longtemps.
Il faut rentrer plus tôt sur le marché du travail et donc avoir un marché du travail plus fluide, alors que très souvent, on prend beaucoup de temps.
Mais est-ce qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans ?
Il faut partir plus tard, bien sûr. Il faut partir plus tard. Il faut évidemment augmenter l'âge de la retraite. Le président de la République ou Jean-Paul Delevoye font la danse du ventre autour de ça. Ils sont en train d'y parvenir. Comment peut-on vouloir réformer le système de retraite sans s'attaquer à sa première injustice, qui serait que dans 10 ans ou dans 20 ans, il ne soit plus financé ? Donc la garantie financière du système de retraite, c'est aussi de prendre en compte la réalité et la nature des choses, c'est que nous vivons plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps.
La seule bonne réforme, c'est donc d'allonger l'âge de départ à la retraite.
Pas la seule.
De retarder.
Mais rentrer plus tôt dans la vie active, s'occuper des problèmes de chômage et de qualification. Mmh. Le taux d'emploi, c'est aussi une question de chômage. On a encore 8% de chômeurs. On a deux fois plus de chômeurs que dans les autres pays. Plus personne ne parle aujourd'hui du chômage. Mmh. C'est comme si ça n'existait plus. Et de l'autre, on a des entreprises qui recherchent sans arrêt des personnes qu'elles ne trouvent pas sur le marché du travail. C'est encore, les paradoxes français, il va falloir à un moment donné réussir à les résoudre. Et on ne peut les résoudre que par des réformes en profondeur.
C'est l'heure de Questions Express.
Le Grand Jury, Question Express.
Éric Woerth, pour ou contre l'augmentation du malus des véhicules polluants ?
Moi, je suis contre. Je suis contre l'augmentation effrénée. Ils augmentent de 7 grammes alors que c'était 3 grammes qui étaient prévus. Vous achetez un SUV 308, vous allez le payer 3-4 fois plus cher qu'auparavant.
Ça, c'est pas Greta Thunberg écolo quand même. Hein. C'est pas très écolo-compatible.
J'ai appelé un Greta Thunberg sur les finances publiques.
Ça, c'est le principal. Ok, on vous entend là-dessus. Autre, pour ou contre l'écotaxe sur les avions ? Les billets d'avion ?
Non, moi je ne suis pas favorable non plus, sauf si c'est une décision mondiale. Si c'est une décision mondiale, alors il faut le faire. Il y a juste à un moment donné, il faudra quand même se poser la question de savoir si on est libre de se déplacer. C'est-à-dire que si maintenant, chaque fois que vous prenez un billet d'avion, vous ne vous sentez pas à l'aise, ça va poser un certain nombre de problèmes.
Mais l'écologie, ce n'est pas votre priorité à vous.
Pourquoi ? Parce que pour vous, c'est uniquement ça, l'écologie.
Je vous pose la question, ça fait partie des mesures qui sont censées dissuader l'utilisation de transports polluants.
Vous plaisantez. Vous plaisantez. Heureusement qu'on peut encore se déplacer. Et le jour où on aura trouvé des substitutions à l'avion et au kérosène dans l'avion, et bien on le fera. Il faut juste accompagner la transition écologique par beaucoup de recherche et par beaucoup de travail. Ce n'est pas uniquement par de la communication. Hein.
Pour ou contre l'augmentation de 10 € du paquet de cigarettes d'ici 2022 ?
Je ne suis pas opposé. Je note simplement que les jeunes continuent à beaucoup fumer, quel que soit le prix du paquet de cigarettes. Donc je crois qu'à un moment donné, ça doit passer par d'autres sujets.
Mais quand même, on augmente ou pas au-delà de 10 euros ?
C'est un seuil symbolique.
Parce qu'ailleurs, ça peut être 12 euros, on le sait, dans certains pays. Bon. Pour ou contre la contraception gratuite dès l'âge de 15 ans ?
Je suis pour la contraception gratuite, oui.
D'accord. Et pour ou contre les jouets dégenrés, mixtes pour améliorer la compétitivité, dit le gouvernement. Est-ce que vous êtes pour cela ?
La compétitivité entre les hommes et les femmes, c'est ça ?
Non, la compétitivité de l'industrie des jouets.
Non, c'est une plaisanterie. Il faut arrêter avec ces trucs-là.
Vous êtes contre ?
Dégenrés. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des habitudes. Il ne faut pas mettre des gens dans des stéréotypes. On en est bien d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, arrêtons avec ce langage. On est en train de technocratiser tout. Et au fond, de déshumaniser tout.
Et enfin, pour ou contre, alors là, peut-être que je connais déjà la réponse, le prix Nobel de la paix pour Greta Thunberg.
Si elle parle des finances publiques, oui.
Ok, le message est passé.
Ouais, pas mal.
Pour ou contre, enfin, je rajoute ce bonus, Éric Woerth, candidat à la primaire d'une droite en 2022. Est-ce que vous pourriez être candidat à la présidentielle dans le cadre d'une primaire ?
J'en sais rien. Je pense que dans la vie politique, il ne faut jamais rien s'interdire.
Vous n'évacuez pas l'idée.
Il ne faut jamais rien s'interdire. Donc, voilà.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et dans pourquoi pas, il n'y a pas.
Avec la casquette Les Républicains ou sans la casquette Les Républicains ? Parce qu'on vous sent quand même depuis le début de l'émission très loin de certaines thèses qui sont...
Non, je ne suis pas loin de ma famille politique. Ma famille politique, c'est ma famille depuis bien longtemps. Et honnêtement, j'ai aucune leçon à recevoir de fidélité à cette famille politique de la droite. Je pense simplement que moi, je suis milite pour une droite ouverte. Respectueuse des uns, qui ne va pas aux frontières de l'extrême droite camper et puis de se dire on part très très à droite puis après on viendra au centre. Je crois à une autre vision de la droite.
Est-ce que vous avez envisagé de quitter à un moment donné le parti?
Non, bien sûr que non.
À aucun moment.
Pourquoi je quitterais le parti?
Non, Valérie Pécresse l'a fait, par exemple.
Je pense que Valérie, elle aurait pu ne pas le faire. Elle a considéré qu'à un moment donné, la succession de Laurent Wauquiez était tronquée, qu'elle avait plus sa place.
Mais ce que vous nous dites, c'est que vous êtes pour une primaire. Vous êtes pour que le prochain candidat de la droite sorte d'une primaire.
Il faut qu'il sorte d'un processus. Je ne sais pas si c'est une primaire, mais pour l'instant, on est comme des wagons sans locomotive. Les wagons, ils sont plutôt pas mal, mais on manque de locomotive.
Et Christian Jacob ne peut pas être cette locomotive, lui qui...
Il sera la locomotive du parti. Il sera président du parti. Et
c'est sûr, ça
J'en sais rien.
Soutenez Guillaume Larrivé?
Parce que j'ai pensé que, d'abord, je n'aime pas l'idée de candidature officielle. Et je pense qu'à partir... Moi, j'étais contre l'idée d'une élection. Donc, c'est assez simple. Je pensais qu'il fallait une direction collégiale et qu'il fallait, au contraire, jouer le collectif, se partager des rôles très clairement et puis essayer d'avancer pendant un an comme ça pour se refonder, parce que ça fait 2 ans qu'on cherche à se refonder et qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut... Et que la force des idées, elle doit passer, elle doit mettre un peu en deçà les hommes et les femmes. Et puis après, quelqu'un émergera.
Julien Arnaud. Arnaud.
Donc, j'ai soutenu Guillaume, parce que d'abord, c'est un type intéressant, intelligent, et que s'il y a des élections, autant qu'il y ait plusieurs candidats, enfin c'est mieux, non ?
Dernière question avant, question nette, Julien Arnaud.
On va parler des Républicains, mais aussi du Rassemblement National. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage il y a quelques jours, 57% des sympathisants LR sont favorables à des alliances avec le RN, le parti de Marine Le Pen. Ça vous inquiète ?
Oui, parce que c'est pas le parti de Jacques Chirac, hein. Et c'est pas notre ADN, comme on dit aujourd'hui. Le mur, il est infranchissable.
Cordon sanitaire, toujours.
Et même pas ce terme, parce que je trouve que c'est humiliant.
C'est le terme employé autant de Jacques Chirac.
Oui, on peut évoluer.
Mais vos sympathisants n'entendent pas de cette manière, visiblement.
En tout cas, il y a un mur infranchissable.
Mais vous avez échoué dans quoi pour qu'aujourd'hui il puisse y avoir cette porosité ?
Mais on nous a toujours dit qu'il y avait cette porosité, je me souviens, enfin toujours. Donc il n'y a pas de porosité, et vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de porosité des idées, il n'y a pas de porosité des méthodes, des postures. L'histoire n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. La France a besoin d'un grand parti de droite, et de droite dans le champ républicain. On n'a pas besoin d'extrémisme. On a besoin de ce grand parti. Et quand on nous dit « Vous n'avez plus la place parce que M. Macron et Mme Le Pen, finalement, vous ont écrasé », je ne crois pas du tout. On a la place qu'on mérite. Et donc, on a la place qu'on veut bien se faire. Il y a des idées de droite. Une République universelle, c'est des idées de droite. Retrouver le chemin d'une égalité des chances et des territoires entre tous,
ce sont des idées de droite. Vous voulez une égalité des chances. En même temps, vous ne voulez pas alourdir, si je vous ai bien lu, les droits de succession. On se dit, est-ce que c'est pas contradictoire ?
Sans doute pas. Je veux au contraire alléger les droits de donation. Parce que je pense que...
Encore faut-il avoir de quoi donner ?
Quand vous avez, heureusement qu'il y a encore des Français qui ont de quoi donner.
Mais ceux qui n'ont rien, ce n'est pas ceux-là qui doivent être davantage aidés avec une augmentation des droits de succession des autres ?
Non. Les droits de donation, ils doivent être... Parce que l'économie doit circuler, l'argent doit circuler, on doit pouvoir donner de l'argent aux générations qui en ont besoin. Il faut évidemment augmenter cela. Honnêtement, la politique sociale de la France, elle est très forte. Elle est très élevée. Et il faut qu'elle le reste. Elle est simplement composée de droits et de devoirs. Dans cette République universelle, il y a des droits et il y a des devoirs. Note que le Premier ministre le pense aussi, puisqu'il dit ça dans son interview ce matin. Tant mieux.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour. Eric Woerth. Alors vous avez parlé d'un scandale d'État pour évoquer l'attaque qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris. Mais pour vous, ça ne suffit pas à demander pour autant la démission de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et c'est là précisément, avec cette déclaration, où vous avez un peu perdu les auditeurs et les téléspectateurs, comme par exemple Georges ou Mireille qui nous ont écrit sur Facebook. Le ministre ne doit pas démissionner, mais c'est quand même un scandale d'État. Ça, c'est le commentaire de Mireille. Donc, il souligne votre contradiction. Donc vous êtes complètement contradictoire sur ce sujet.
Je crois pas. Vous savez, chacun va chercher les contradictions de tous. La vie, elle est compliquée. Hein. Elle est plus compliquée que du noir et du blanc. C'est un scandale d'État. Parce qu'on a laissé perdurer, quelqu'un a réussi à s'infiltrer dans un service de renseignement, alors que des mots, etc. Bon, il y a des chaînes hiérarchiques.
Mais ça ne suffit pas à demander la démission de Christophe Castaner.
C'est des propositions du pauvre, ça. Demander la démission d'un ministre, c'est les idées de ceux
qui n'ont jamais d'idées. Le message est passé à Eric Ciotti, s'il nous écoute, à Guillaume Larrivé.
J'entends ça depuis toujours. On demande la démission d'un tel et d'un tel, comme si... Et puis après, on
vous
repart
entend.
Comme avant.
C'est l'une de vos différences qu'on note aujourd'hui par rapport à certains.
Et on ne fait rien. Honnêtement, moi, je suis sur les idées, je suis sur les réformes.
C'est ça qui met la droite par terre, les réponses du pauvre.
Non, mais parce que des gens comme Eric Ciotti ou Guillaume Larrivé, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, ils ne disent pas que ça.
Ah, mais ils le disent aussi.
Ouais.
Alors, autre question, Marie-Pierre Haddad.
Enfin, honnêtement, ils ont beaucoup réfléchi à ces sujets.
Mais vous n'êtes pas sur ce sujet-là de la pétition.
Sur ce sujet-là, sur cette manière de prendre les choses, c'est pas la même.
Pour avancer, c'est sur les gilets jaunes. Donc c'est un sujet qui électrise vraiment les réseaux sociaux. Et pour vous, Emmanuel Macron est complètement responsable de cette crise des gilets jaunes. Et beaucoup d'internautes, notamment Arnaud et Éric, qui vous rappellent que vous avez été au pouvoir, vous avez été membre d'un gouvernement, et c'est aussi et surtout votre responsabilité. Donc est-ce que vous reconnaissez une part de responsabilité dans la crise et la colère des gilets jaunes?
Non. Enfin, non, enfin, on n'était pas au gouvernement quand ça s'est déclenché. Enfin, c'est pas.
Mais il n'y a pas une sédimentation aussi des politiques enfin,
je sais
qui arrivent à une crise.
C'est vraiment né.
Non, mais c'est, non, mais d'accord. Mais la France est responsable de tout depuis Capet. Enfin, on peut prendre l'ensemble de Louis-Philippe. On peut remonter très très loin. C'est une stratification de choses merveilleuses et puis d'erreurs. Mais en réalité, les crises sociales en France, c'est pas vrai dans d'autres pays. Pas vrai dans d'autres pays. Les crises sociales en France, elles sont juste sous-jacentes, elles sont juste sous l'épiderme. Il suffit d'une mèche qui les allume. On le sait très bien. D'autres gouvernants ont eu à faire face à des crises sociales. Et ce que je dis, c'est que le président de la République, dans une politique où il a réduit le pouvoir d'achat des plus faibles, c'est incontestable, dès l'année 2017 et en 2018, et que par ailleurs, à coup de petites phrases, il a plutôt donné le sentiment qu'il avait une vision un peu arrogante des Français, à juste titre ou pas. Je ne crois pas que ce soit sa vision. Mais en tout cas, il a donné ce sentiment à une multitude de reprises. Bah, à un moment donné, ça allume une mèche. Personne ne sait ce que ça peut devenir. Donc il est pleinement responsable. C'est sa politique qui est responsable.
Dernière petite question avant la fin de cette émission.
C'est Alexandre Benalla qui envisage d'être candidat aux élections municipales à Saint-Denis. Est-ce que ça vous choquerait de voir des affiches voter pour Alexandre Benalla?
On est dans un monde de dingue. Dans un monde de dingue, tout est possible, tout est permis. S'il est éligible, il peut se présenter aux élections. Et heureusement, moi, ce qui serait étonnant, c'est qu'il y a des gens qui votent pour lui.
Patrick Balkany soit candidat à nouveau aux élections.
Je n'ai pas l'impression qu'il puisse l'être.
Mais ça serait aussi un monde de dingue.
Oui, un peu. Les gens sont très contents du maire qu'il est, mais je pense qu'il y a une page qui s'est tournée, obligatoirement.
Merci beaucoup, Éric Woerth, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.